Voici donc venu ce moment obligé dans un mariage religieux où le pasteur ou le prêtre va dire quelques mots, faire un petit discours sur un sujet extrêmement original pour l'occasion, à savoir l'amour. Ce sera sûrement, comme d'habitude, une sorte de compilation de lieux communs, de bons sentiments, typiques en fait de ce genre de célébration, avec cette idée principale vraiment bouleversante, carrément subversive, je dirais. L'amour, c'est bien. Amaury et Licia, aimez-vous l'un l'autre et vous vivrez heureux longtemps et vous aurez beaucoup d'enfants, c'est sûr, parce que j'ai lu ça dans un commentaire hautement académique de la Bible intitulé « La petite maison dans la prairie ». Les chrétiens sérieux, ils sont insupportables avec leur vision tellement naïve, tellement niaise et mielleuse de l'amour. Si seulement cette cérémonie c'était un DVD, on pourrait cliquer sur chapitre suivant, on pourrait passer directement au bisou et on raterait rien d'important. Le mariage c'est tellement kitsch, alors bien sûr on assiste poliment au mariage de ses amis et on force un peu le sourire parce qu'en vérité on n'a pas le cœur de leur dire que l'amour c'est juste une cruelle illusion. Si je me fie à un sondage BVA qui a été réalisé à la Saint-Valentin de cette année, et en admettant que vous tous présents ici, vous êtes plutôt représentatifs de la population française, je dois supposer qu'au moins un tiers d'entre vous ne croyez pas au mariage ni à l'amour durable. Alors vous avez sûrement lu le verset biblique qui figure sur le faire-part d'Amaury et Licia. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et vous vous êtes dit, c'est trop mignon. Dommage que ce ne soit que de la réalité augmentée. On se fait plaisir pendant un moment en se disant que c'est pour de vrai, mais tôt ou tard, il faut enlever le casque et remettre les pieds sur terre. L'amour, en fait, ça ne marche pas. L'amour est mort, en fait, un peu comme Dieu d'ailleurs, hein. Tout ça, c'est tellement dépassé. Si vous avez mon âge et si vous avez les mêmes goûts musicaux que moi, vous vous souvenez peut-être du groupe de métal Pantera et d'une de leurs chansons les plus connues à l'époque, dans les années 90, qui s'appelle « This Love », cet amour en français, et qui décrit sans détour les effets indésirables et même les effets mortels de l'amour-illusion. L'amour est mort. C'est aussi le titre, dans un autre registre, d'une chanson posthume de Jacques Brel, sortie en 2008, qui décrit cette réalité très commune, en fait, d'un couple qui s'était marié tout feu tout flamme, mais qui, avec le temps, a vu l'amour disparaître comme le soleil au crépuscule dans Minecraft annonçant le réveil des monstres. Ils n'ont plus rien à se maudire, ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science, les cris sont devenus leur rire. L'amour est mort, l'amour est vide, il a rejoint les goélands, la grande maison est livide, les portes claquent à tout moment. Voilà, Amaury et Licia, désolé mais c'est ça l'amour. Aujourd'hui, un rêve qui passe vite. Peut-être que du coup, maintenant, vous n'êtes plus trop sûr de vouloir vous engager pour la vie. Bah, désolé, parce que, comme Mika nous le rappelait, c'est déjà fait, hein. Vous avez signé les papiers hier et apparemment, vous n'avez pas trop fait attention à l'article de loi qui vous concernait. Enfin bref, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. C'est que cet amour dont il a été question jusqu'ici, ben, c'est pas vraiment l'amour au sens chrétien. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, parce que vous êtes chrétien, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui vomissent avec une certaine lucidité cet amour fiction guimauve bisounours. Bonne nouvelle donc, parce que l'amour dans la Bible, contrairement aux idées reçues, c'est pas du tout du sentimentalisme dégoulinant et qui disparaît une fois qu'il a fini de dégouliner. L'amour au sens biblique, c'est beaucoup plus robuste que ça, c'est beaucoup plus épique et musclé, ça ressemble beaucoup plus à du héroïque fantasy qu'à des romans à l'eau de rose. Et pour le coup, l'amour dans la Bible, pour le coup, c'est vraiment subversif, c'est vraiment anticonformiste. Dans sa définition la plus simple, on pourrait dire que l'amour dans la Bible, ça consiste à s'engager intentionnellement envers quelqu'un au détriment de ses propres intérêts. S'engager intentionnellement envers quelqu'un au détriment de ses propres intérêts. Il y a clairement quelque chose de puissant et d'héroïque dans cette vision de l'amour qui est liée en fait au concept de sacrifice altruiste. Fondamentalement, dans la Bible, L'amour, c'est pas quelque chose qu'on ressent ou qu'on subit. L'amour, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait délibérément, alors même qu'on n'est pas normalement ou naturellement enclin à le faire. Et ça, c'est une attitude qu'on admire à chaque fois qu'on la voit dans les films ou dans la littérature ou même dans la vraie vie, comme le dit aussi Lao Tzu dans une papillote que j'ai mangée récemment. Imposer sa volonté aux autres, c'est une force, mais se l'imposer à soi-même, c'est une force supérieure. Alors dans Le Seigneur des Anneaux, il y a quelqu'un, un personnage qui incarne très bien cet amour au sens biblique. C'est celui qui est, à mon avis, le véritable héros de cette épopée, à savoir Sam Gamgee, le compagnon de Frodon. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette trilogie que chaque épisode finit avec une démonstration emblématique de cet amour sacrificiel de Sam envers son compagnon Frodon. À la fin du premier épisode, Sam se jette à l'eau alors qu'il ne sait pas nager et il manque de mourir noyé parce qu'il veut à tout prix rejoindre Frodon dans sa barque pour l'accompagner dans sa mission périlleuse. Puis dans le deuxième épisode, à la fin, Sam intervient une fois de plus au péril de sa vie pour empêcher Frodon de succomber au pouvoir de l'anneau, au pouvoir maléfique de l'anneau. Et Frodon, à ce moment-là, qui a presque tué Sam, en fait, il est tellement découragé qu'il veut abandonner sa mission, mais c'est Sam encore qui le remet sur ses jambes et lui inspire de nouveau les forces nécessaires pour poursuivre le voyage. Et puis, enfin, à la fin du troisième et dernier épisode, Sam rejoint Frodon sur les pentes du mont Destin, ce fameux volcan au cœur de Mordor dans lequel il faut jeter l'anneau pour le détruire. Et Sam, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à porter sur son dos le pauvre Frodon qui est complètement épuisé. Pourquoi? Ben, pour lui permettre d'aller au bout de sa mission. À chaque fois, Sam sacrifie ses propres intérêts au profit de quelqu'un d'autre, alors que ce quelqu'un d'autre, des fois, l'a laissé tomber, des fois, lui a fait du mal, s'est montré méchant envers lui et ne mérite pas, en fait, sa loyauté. Et c'est ça, en fait, l'amour au sens chrétien. Et la manifestation ultime de ce genre d'amour, ce serait carrément de donner sa vie au profit de quelqu'un qui ne le mérite pas. Et la raison pour laquelle on peut affirmer que c'est vraiment ça, l'amour au sens chrétien, c'est parce que d'après la Bible, c'est comme ça que Dieu, qui est amour, aime les hommes. Et j'en viens enfin au texte biblique sur lequel je voulais attirer votre attention cet après-midi. La Bible dit « À peine mourrait-on pour un juste ?» Quelqu'un pourrait peut-être avoir le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Deux points. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le mot pécheur, ici, ça désigne des hommes, des êtres humains, donc, qui ont rejeté Dieu, qui ont voulu vivre indépendamment de lui parce que ils ont voulu en quelque sorte prendre sa place, décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, suivre leurs propres désirs et leurs propres intérêts. Des gens donc, vous l'aurez bien compris, qui ne méritent pas que Dieu s'engage en leur faveur. Dans ce verset, le mot Christ désigne Jésus, bien sûr, que la Bible présente comme étant Dieu lui-même incarné, c'est-à-dire Dieu qui prend la nature d'un homme, et c'est précisément ce qu'on fête à Noël en tant que chrétien, qui a pris la nature d'un homme donc et qui est venu volontairement, intentionnellement, secourir les hommes et les délivrer de la situation dans laquelle ils s'étaient mis par leur propre faute. Et la façon dont Jésus accomplit ça, et bien c'est ça qui nous révèle et même qui prouve l'amour de Dieu. Parce que ce qu'il fait, vous connaissez bien cette histoire, elle nous est rappelée par cette statue là au-dessus d'Amaury et Lysia. Jésus offre sa vie sur la croix, il se substitue aux hommes, il paye le prix de notre réconciliation avec Dieu. Il donne sa vie pour que nous ayons une vie nouvelle en échange. Et en fait, ce que Jésus fait pour les hommes, ça ressemble à ce que la compagne de Conan le barbare fait pour lui dans le film qui porte son nom, sorti en 1982. Conan était quasiment mort après avoir été exécuté sur l'arbre du malheur. Et Valéria, sa compagne, accepte, par amour, de payer aux esprits une sorte de rançon en échange de la vie de Conan. Et ce prix à payer, en fait, c'est la vie de Valéria elle-même. Vous savez quoi? La ressemblance avec Jésus ne s'arrête pas là, puisque Valéria, qui a échangé donc sa vie contre celle de Conan, lui déclare ensuite, alors que Conan est en train de revenir d'entre les morts, en quelque sorte, elle lui déclare ensuite le caractère indestructible, immortel même, de son amour pour lui, sous la forme d'une promesse. Elle lui dit, tous les dieux ne pourront jamais nous séparer. Si j'étais morte et que tu combattes toujours pour la vie, je reviendrai des ténèbres. Je pourrais même revenir de l'enfer pour combattre à tes côtés. Et en effet, plus tard dans le film, Valéria revient du séjour des morts sous la forme d'une valkyrie, en quelque sorte, pour aider Conan. Et de la même façon, Jésus est mort par amour pour les hommes. Il a donc payé cette rançon pour nous délivrer des conséquences de nos fautes. On ne le méritait pas, mais il l'a fait pour nous, par amour pour nous. Mais il est aussi ressuscité par amour pour les hommes, conformément à ses promesses. Et du coup, Jésus, qui est vivant aujourd'hui, il tend la main à tous ceux qui veulent lui faire confiance. D'une part, vous l'avez compris, pour les réconcilier avec Dieu pour l'éternité, mais d'autre part aussi pour leur venir en aide dès aujourd'hui. L'amour que Dieu porte envers les croyants est un amour sacrificiel, mais c'est aussi, vous voyez, un amour indestructible. C'est pourquoi la Bible dit aussi, concernant tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, la Bible dit, je cite, « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Alors tout ça pour dire quoi ? Amaury et Licia, aujourd'hui, vous êtes sur la case « Mariez-vous » du jeu de société Destin, le jeu de la vie. Et vous pouviez continuer votre vie comme célibataire, mais vous avez fait ce choix d'installer une petite figurine de sexe opposé dans votre voiture en plastique. Ce qui, je le rappelle, d'après les règles du jeu, vous permet aussi de recevoir des cadeaux des autres joueurs. Maintenant, en tout cas, vous êtes liés, maintenant vous êtes liés pour le reste de votre vie. Vous vous êtes déjà promis fidélité hier à la mairie et vous allez renouveler cet engagement devant nous tous dans quelques instants. C'est donc du sérieux. Mais comment allez-vous réussir ? Comment allez-vous réussir ? Vous allez réussir parce que vous savez ce que c'est que l'amour, le vrai. Vous avez vous-même été au bénéfice de l'amour de Dieu qui, par Jésus-Christ, a donné sa vie pour vous, Amaury et Licia, qui ne le méritiez pourtant pas. Cet amour épique, héroïque, j'ai même envie de dire cet amour sanglant de Dieu, c'est cette puissance dans votre vie qui va vous permettre à votre tour d'aimer de cet amour-là, de ce genre d'amour-là. Comme le dit encore la Bible, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et au risque de me répéter, je ne parle pas ici de cet amour niais et mielleux de bien des comédies romantiques, mais on parle ici de l'amour véritable qui consiste à s'engager intentionnellement envers quelqu'un au détriment de ses propres intérêts. Alors il y aura bien des occasions dans votre vie où cette personne avec qui vous vous liez aujourd'hui par le mariage, des occasions où cette personne-là vous sera devenue bien désagréable, en tout cas temporairement désagréable. Oui, Licia, ça arrivera, c'est peut-être déjà arrivé, mais on ne va pas te demander de faire des confessions là, mais ça arrivera lorsque Amaury te semblera tellement froid et insensible, incapable de t'écouter ou de te comprendre ou même d'essayer, parfois têtu, inflexible et blessant. Et Amaury, parfois, Licia, elle aussi va vraiment t'énerver. Ses petits défauts vont prendre parfois d'énormes proportions. Et des fois, en dépit de tous tes efforts, t'arriveras tout simplement pas à la comprendre. Et ce que dit Léon Tolstoï à ce sujet dans une autre papillote que j'ai mangée récemment ne suffira pas à te consoler lorsqu'il dit ceci. En matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de la sincérité. Amaury, ça ne sera pas suffisant pour te consoler. Amaury et Licia, vous vous liez aujourd'hui à quelqu'un qui parfois vous sera désagréable. C'est la réalité. Peut-être même parfois, vous aurez envie de dire insupportable. Mais parce que Dieu vous a tant aimé alors que vous lui étiez désagréable, vous pourrez aimer comme lui, à votre tour. Aujourd'hui, en effet, c'est comme si vous accédiez à un nouveau niveau dans un jeu vidéo. Il va y avoir de l'action, des difficultés, des décisions à prendre, des énigmes à résoudre, sûrement des boss à affronter. Mais contrairement à un jeu vidéo, il n'y aura pas de checkpoint, c'est-à-dire des endroits d'où vous pourrez recommencer si jamais vous perdez en cours de route, quoi, si vous mourrez ou si vous perdez l'aventure. Il n'y a pas non plus de code de triche qui vous permettrait d'être invincible ou de sauter les épreuves les plus difficiles. En plein milieu d'une grave dispute, Amaury, tu pourras pas faire O, O, Baba, gauche-droite, gauche-droite, BA, pour obtenir un power-up qui te permettra d'attendrir Lycia comme par magie. Non, ça marchera pas. En revanche, vous avez la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu dans votre vie. Et dans ces moments difficiles où l'autre vous sera désagréable, vous pourrez, en fait, à ce moment-là, sacrifier vos propres intérêts au profit de l'autre. Vous pourrez, comme Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, vous pourrez vous jeter à l'eau, bien que vous ne sachiez pas nager, pour rejoindre l'autre dans sa barque et lui dire « J'ai fait une promesse, monsieur Frodon, une promesse. » Ne le perdez pas, Sam Gamgee. Alors, faut pas que je vous perde. Et puis, à d'autres moments, vous pourrez lui rappeler que les personnages des grandes histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient foi en quelque chose, monsieur Frodon. Et en quoi avez-vous foi, Amaury et Lycia, lorsque vous étiez encore pécheurs? Christ est mort pour vous. Et encore, à d'autres moments particulièrement difficiles, vous pourrez vous tenir ensemble sur les pentes du Mont Destin, au cœur de Mordor, et vous pourrez dire à l'autre « Je ne peux pas porter l'anneau pour vous, monsieur Frodon, mais je peux vous porter, vous. » Alors le vouvoiement, c'est optionnel. Mais un anneau, il va en être question dans quelques instants. C'est pas un anneau maléfique, bien au contraire. Ces alliances que vous allez vous échanger, en fait, elles portent bien leur nom d'alliance, parce qu'elles pointent directement vers l'amour au sens véritable, qui est cet engagement inconditionnel envers l'autre. Un engagement qu'on entérine par le moyen d'une alliance au sens littéral, c'est-à-dire d'une promesse solennelle et irrévocable. C'est bien de cette façon-là que Dieu, par Jésus-Christ, s'attache à tous ceux qui lui font confiance. Et je sais, Amaury et Lycia, que vous avez foi en lui. Dieu s'est donc lié à vous, à un tel point qu'il ne rompra jamais. Et votre mariage est censé reproduire cette réalité. Conclusion. Un jour, tout le monde, sans exception, arrivera à la fin de sa vie et ce sera game over, définitivement. Il n'y aura pas de retour au checkpoint, pas de vie supplémentaire pour retenter sa chance. Et tout ce qui comptera à ce moment-là, ce sera de savoir si oui ou non on fait l'objet de l'amour sacrificiel et indestructible, non pas de son conjoint, mais de Dieu. Si votre confiance est en Jésus, alors la réponse sera oui. Écoutez-moi bien. L'amour est mort, mais c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment l'amour. La télé vous ment. C'est pas vrai que l'amour est dans le pré. En réalité, l'amour est dans la Bible. Et si vous voulez le découvrir, cet amour-là, eh bien, rien de plus simple. Lisez la Bible et apprenez à connaître Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir manifesté envers nous ton amour d'une manière si puissante par la venue de Jésus-Christ qui s'est donné totalement pour nous, alors qu'en fait nous étions, comme le dit la Bible, nous étions des pécheurs, nous étions désagréables en fait, mais tu nous as aimés pour nous sauver. Nous te demandons maintenant de nous aider à mieux apprécier cet amour que tu nous portes et à le reproduire dans nos relations d'abord maritales, si nous sommes mariés, mais aussi plus largement avec notre prochain. Te demandons cela au nom de Jésus. Amen.